Au sommaire de ce journal, l'Assemblée générale de l'ONU votera mardi une résolution exigeant un cessez-le-feu à Gaza. La solution à deux États est inefficace pour résoudre la question palestinienne, a déclaré le chef de la diplomatie iranienne. Et puis, le Hezbollah libanais annonce le ciblage de plusieurs soldats et sites israéliens dans le sud. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. L'Assemblée générale des Nations unies a prévu mardi une réunion d'urgence convoquée par l'Égypte et la Mauritanie pour voter un projet de résolution exigeant un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza. L'Égypte et la Mauritanie ont convoqué la réunion en leur qualité de président respectivement du groupe arabe composé de 22 membres et de l'Organisation de la coopération islamique composée de 57 membres. Riyad Mansour, l'ambassadeur palestinien auprès des Nations unies, a déclaré à l'Associated Press que le projet de résolution est similaire à la résolution du Conseil de sécurité à laquelle les États-Unis ont opposé leur veto vendredi. Mansour a déclaré que 103 pays ont coparrainé la résolution et il espère davantage de coparrains et un vote élevé pour la résolution de l'Assemblée générale lorsqu'elle sera mise aux voix. S'adressant lundi à une conférence en ligne organisée par le Qatar, le ministre des Affaires étrangères a réaffirmé l'opposition de l'Iran à une solution à deux États pour les problèmes palestiniens, affirmant que c'est parce que le régime israélien est un occupant. Israël occupe la terre palestinienne et nous pensons qu'une solution à deux États ne contribuera pas à résoudre la question palestinienne, a déclaré Hossein Amir Abdollahian lors de la conférence organisée lundi à Doha. La seule chose que l'Iran et Israël ont en commun est qu'aucun des deux ne croit à une solution à deux États, a déclaré le plus haut diplomate iranien. Il a souligné que la solution à deux États n'aidera pas les Palestiniens, ajoutant qu'il ne devrait y avoir qu'un seul gouvernement dans les territoires palestiniens et que ce gouvernement sera déterminé par un référendum. Sachez d'autre part que le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian est parti pour Genève ce mardi afin de participer au Forum mondial sur les réfugiés 2023. Le chef de la diplomatie iranienne prononcera un discours au Forum mondial sur les réfugiés. En Suisse, Amir Abdollahian doit assister à la réunion extraordinaire sur Gaza en marge du Forum mondial. Le Forum sur les réfugiés 2023 aura lieu du 13 au 15 décembre à Genève. Sachez également que le chef de la diplomatie iranienne et le premier ministre syrien se sont rencontrés à Téhéran. Le plus haut diplomate iranien Hossein Amir Abdollahian et son homologue syrien se sont rencontrés lundi soir. Ils se sont penchés sur les questions d'intérêt commun, régional et international. L'Iran et la Turquie ont également souligné la poursuite des efforts diplomatiques en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza. Les ministres des Affaires étrangères de l'Iran et de la Turquie ont souligné la nécessité de poursuivre les consultations et les efforts diplomatiques sur la scène régionale et internationale pour faire pression sur le régime israélien en faveur d'un cessez-le-feu et de l'arrêt de la guerre à Gaza. Lors d'une conversation téléphonique avec son homologue turc lundi soir, le ministre iranien des Affaires étrangères a discuté de certaines questions à l'ordre du jour des relations bilatérales et régionales, notamment la poursuite des efforts diplomatiques en faveur d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza. L'Iran et la Chine ont également réaffirmé l'établissement d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian a déclaré que la portée de la guerre dans la région s'est élargie et que si les attaques contre Gaza ne sont pas arrêtées immédiatement, la région pourrait exploser à tout moment. Lors d'une conversation téléphonique avec le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, lundi soir, le chef de la diplomatie iranienne a discuté des relations multilatérales et régionales, en particulier les récents développements en Palestine. Amir Abdollahian a qualifié la sécurité de la région d'importante pour tous et indiqué, à cet égard, la République islamique d'Iran a tenu plusieurs consultations avec les pays de la région. La survie de Netanyahou ne dépend que de la poursuite de la guerre et du génocide, mais la situation dans la région ne restera pas ainsi, a-t-il conclu. Autre conversation téléphonique entre l'Iran et la Russie, les chefs de la diplomatie des deux pays ont discuté des derniers développements toujours à Gaza lors d'une conversation téléphonique avec son homologue russe lundi soir. Toujours, le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian a qualifié le veto américain à la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies d'autorisation pour poursuivre le génocide de la population de Gaza. Pour sa part, le ministre russe des Affaires étrangères a exprimé sa satisfaction quant au processus de coopération bilatérale et a souligné la nécessité de poursuivre les efforts internationaux pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza, accroître l'acheminement d'aide humanitaire aux habitants et former un État palestinien indépendant. Enfin, le Hezbollah libanais a annoncé lundi la mise en œuvre de 4 nouvelles opérations contre des sites et rassemblements israéliens près de la frontière libanaise avec la Palestine occupée. La résistance libanaise a annoncé dans des déclarations successives le ciblage de la caserne Pranit, du site Monk, du site Hadab al-Boustan et du site al-Baghdadi, en plus des rassemblements de soldats et de véhicules ennemis avec des obus d'artillerie et des missiles Burkan, notant qu'il a infligé des attaques directes et ciblées contre l'ennemi. Fin de ce journal, merci de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. Le lancement réussi de Kavous est une étape importante dans l'envoi d'astronautes dans l'espace. Le lancement réussi de la capsule spatiale expérimentale d'Iran, Kavous, représente une étape importante dans le programme iranien d'envoi d'astronautes dans l'espace, visant à ce que l'Iran devienne le 4e pays à le faire. Mercredi, l'Iran a mis en orbite avec succès sa nouvelle capsule bio-astronautique avec la fusée Salman de fabrication nationale lancée depuis le centre spatial Imam Khomeini situé dans la province centrale de Semnan. La capsule de 500 kg, développée par l'Institut iranien de recherche aérospatiale, affiliée au ministère de la Science, de la Recherche et de la Technologie, a été lancée à une altitude de 130 km et revenue saine et sauve. Ce lancement est une étape vers l'envoi d'humains dans l'espace, conformément au plan du gouvernement iranien, visant à relancer divers secteurs de l'industrie spatiale et à consolider les connaissances bio-astronautiques. Quels sont les précédents vols bio-astronautiques de l'Iran? Les premières annonces non officielles concernant le programme spatial habité de l'Iran sont apparues au milieu des années 2000 et ont été confirmées officiellement en août 2008 par le chef de l'agence spatiale iranienne. L'Institut de recherche aérospatiale, AERI, a révélé plus tard que le programme bio-astronautique avait débuté dès 2002 lorsque les ministères de la Science et de la Défense avaient conclu un accord sur un programme spatial commun. En novembre 2008, l'Iran a pris les premières mesures concrètes en lançant une biocapsule expérimentale à une altitude de 40 km avec une fusée dénommé Kavoshkar 2. En février 2010, la même fusée a lancé des animaux à sang froid, plus précisément des tortues, des souris et des vers, dans un vol atmosphérique de 55 km. La même année, le programme intitulé Conception, Construction et Lancement des sondes spatiales avec des organismes vivants a été déclaré d'importance nationale. En mars 2011, 2 ans après le lancement, en 2009, du premier satellite OMID, une fusée Kavoshkar 4 a été lancée au-dessus de la ligne Qumran à une altitude suborbitale de 135 km, transportant une biocapsule expérimentale pour animaux à sang chaud. Le missile à lancement atmosphérique Kavoshkar 2 est une version modifiée de SRBM Nazehat avec une portée de 100 km, tandis que le Kavoshkar 4 est une version modifiée du SRBM Fateh 110 avec une autonomie de 300 km. Après deux autres lancements de biocapsules en septembre 2011 et septembre 2012, l'osinge Rhesus Pichkam a été envoyé dans l'espace en janvier 2013, le Farjam à la fin de la même année, tous deux sur des vols suborbitaux de 120 km. Avec ce succès, l'Iran devient le sixième pays à envoyer des animaux dans l'espace après les superpuissances de la guerre froide, tout comme la France et le Japon. Ces vols ont permis à l'Iran d'étudier de manière indépendante les organismes dans l'espace, parallèlement au développement de nouveaux lanceurs et de capsules spatiales humaines. Qu'est-ce que la capsule spatiale Qaboos ? La capsule spatiale Qaboos est un vaisseau spatial expérimental pour une personne conçue pour un court voyage dans l'espace, au-dessus de la ligne Cambrian de 100 km et pour survivre à une rentrée à la surface de la Terre. Parlant strictement et techniquement, il s'agit d'un vaisseau spatial standard, sans équipage, utilisé pour tester la conception, la configuration des étages, les matériaux, les instruments et leur comportement pendant le vol, dans le but de vérifier et d'améliorer le vaisseau spatial final avec équipage. Une capsule humaine utilisable représente un processus technique exigeante car elle nécessite des matériaux résistants à des températures de rentrée élevées de quelques milliers de degrés de Celsius. En plus de la durabilité structurelle, une rentrée contrôlée avec des forces G tolérantes est également nécessaire car des forces excessives peuvent avoir un effet mortel sur le corps humain. Aujourd'hui, alors que l'économie iranienne s'est considérablement remise des sanctions et que la politique américaine de pression maximale a échoué, les programmes de développement technologique s'accélèrent. Les critiques du non-respect des délais oublient qu'il ne s'agit pas d'une course à l'espace de la guerre froide dans laquelle les superpuissances, au nom de leur prestige mondial, accéléraient le développement et y consacraient plusieurs pourcentages de leur PIB. Grâce à cela, l'intervalle de temps entre les premiers satellites soviétiques et américains lancés dans l'espace et leurs premiers astronautes n'était que de 3 ans et demi. Le programme spatial habité de l'Iran se déroule en fonction des besoins de recherche et des capacités financières existantes, de sorte que les retards ne sont pas le résultat d'une incapacité ou d'une série d'échecs.